Et donc, Seigneur nous dit que si nous l'aimons, gardons ses commandements, gardons sa parole. Donc, je propose qu'on regarde justement sa parole ensemble ce matin en lisant le psaume 1. Et à travers le psaume 1, nous allons essayer de trouver une réponse à la question « Pourquoi aimer la parole de Dieu ?» Puisque donc ce psaume parle d'aimer la parole. Donc pourquoi est-ce qu'on est encouragé à aimer la parole de Dieu ? Donc psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors, le deuxième verset de ce psaume nous présente un bel objectif à adopter en début d'année pour cette année à venir, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit. Si nous arrivons à adopter cela comme conduite tout au long de l'année, nous sommes sûrs de terminer l'année bien plus avancée dans les voies de Dieu, bien plus ancré dans la foi, bien plus profondément en relation avec le Seigneur. Et donc le psalmiste nous encourage à travers ce psaume de trouver notre plaisir dans la loi de l'Éternel, donc dans la parole de l'Éternel, puisque ben, pour lui, la seule partie de la parole de Dieu à laquelle il avait accès, c'était la loi de l'Éternel. Mais donc, il encourage chacun à trouver son plaisir dans la parole de l'Éternel, de la méditer jour et nuit. Et puis, il examine donc les bienfaits pour celui qui a une telle conduite, pour celui qui aime et qui médite la parole de Dieu. Et puis, il le contraste avec celui qui va chercher sa direction, ses opinions, sa manière de vivre ailleurs que dans la parole de Dieu auprès du Seigneur. Verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, il nous présente deux sources éventuelles pour trouver nos avis, pour trouver notre direction pour la vie. Et il les contraste l'un avec l'autre. Dans le premier verset, donc, il emploie trois noms pour plus ou moins parler des mêmes personnes. Donc, des méchants, des pécheurs, des moqueurs. Et puis, il parle aussi de trois actes qui sont similaires, mais qui finalement sont très souvent progressives. Qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Il y a finalement une mise en garde dans ce verset, car souvent donc, on peut commencer par accompagner, marcher à côté de ceux qui vivent dans une autre direction que que ce que le Seigneur nous donne. Ceux qui ont d'autres avis, d'autres opinions que lui, ceux qui croient que la vie doit être vécue autrement que ce que le Seigneur nous enseigne. Et dans un premier temps, nous avons l'impression que c'est nous qui sommes en contrôle de la situation. Nous ne faisons que les accompagner, nous marchons à leur côté, mais c'est nous qui marchons. Mais finalement, l'histoire nous montre que généralement, ceux qui marchent le long du chemin dans la compagnie de personnes qui vivent tout autrement que ce que le Seigneur nous conseille, on commence par marcher à côté, mais tôt ou tard, on s'arrête dans leur compagnie. Et puis non seulement on s'arrête, mais on s'assoit dans leur compagnie. Et finalement, on se trouve donc dans ce même style de vie que ces personnes qui sont décrites dans ce psaume. Donc ce sont très souvent des actes progressifs et le psalmiste nous met en garde sur ce chemin qui nous conduit dans la mauvaise direction, où on commence par marcher dans le mauvais sens, puis on s'arrête, puis on s'assoit, et on se trouve donc loin du Seigneur et loin de ce qu'il veut pour nous. Il parle donc de ceux qui sont opposés à la parole de Dieu par leurs avis. Il parle des moqueurs, ceux qui ne sont pas d'accord avec le Seigneur et qui trouvent que ce que le Seigneur a à nous dire est sans intérêt. Et de ceux, du coup, aussi, qui s'opposent au Seigneur, peut-être pas ouvertement dans leurs paroles, qui ne se moqueraient pas du Seigneur dans leur discours, mais finalement qui se moquent de lui dans leur vie, puisque finalement, ils vivent selon toute autre règle que ce que le Seigneur nous donne, ils vivent pour quelqu'un d'autre que ce que le Seigneur nous encourage à faire, car ils vivent pour eux-mêmes et non pas pour le Seigneur. Donc, lorsqu'on suit leur influence, le psalmiste nous dit qu'on se met en danger, puisqu'il nous indique surtout le but final, le point final de chacun de ces comportements, soit ceux qui méditent jour et nuit la parole de Dieu, soit ceux qui n'ont rien à faire de la parole de Dieu. Il nous encourage donc à méditer jour et nuit la parole de Dieu, plutôt que laisser l'influence des pécheurs, des méchants, des moqueurs influencer, guider notre manière de penser, notre manière de vivre et surtout notre comportement. Il nous met en garde contre cette influence et il dit que nous devons donc veiller sur nous-mêmes. La Bible nous dit de veiller sur nos cœurs. On doit finalement veiller sur les influences, sur qui nous influence, finalement sur qui on écoute. Est-ce que notre vie est conduite selon ce que nous entendons de la part du Seigneur? Est-ce que c'est sa parole qui façonne mes avis, mes manières de penser, et donc du coup mes actes? Ou est-ce que ce sont des méchants, des pécheurs, des moqueurs qui façonnent ma manière de penser, qui façonnent finalement qui je suis? C'est pour ça qu'il souligne le fait de méditer jour et nuit la parole. Le risque, surtout en tant que chrétien évangélique, c'est que parfois on peut avoir l'impression d'avoir fait notre devoir évangélique, d'avoir lu notre passage biblique pour chaque jour. On peut même vivre avec une piété, entre guillemets, où tous les jours, on lit la parole, mais où finalement, nous sommes toujours plus sous l'influence des méchants, des pécheurs et des moqueurs que de la parole de Dieu, que, donc de Dieu lui-même, puisque finalement, oui, on lit la parole, mais une fois qu'on l'a lue, on ferme la Bible et on dit, bon, ben, ça y est, jusqu'à demain, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et puis après, on ne le médite pas. Et cette notion de méditer veut dire, ben, on garde cette parole en nous, on réfléchit, on se demande ce que ça veut dire, on se demande comment est-ce que je vais pouvoir appliquer cela dans ma vie, qu'est-ce que cela va changer, doit changer en moi, est-ce que mes avis sont conformes à ce que je viens de lire? Est-ce que ma manière de penser est conforme à ce que je viens de lire? Est-ce que ce que je dis est conforme à ce que je viens de lire? Et est-ce que mon comportement est conforme à ce que je viens de lire? Ou est-ce que ce sont juste des paroles? Et oui, je l'ai lu parce que ben, le pasteur m'a dit que c'est une bonne chose de le lire. Et donc j'ai pu cocher ma case sur le plan de l'année, et même en fin d'année, dire, ben voilà, je suis un bon chrétien, j'ai lu tout au long de l'année toute la Bible, mais je ne l'ai jamais médité. Je ne l'ai jamais mise en pratique. Et après, ben, qui façonne ma manière de penser? J'ai lu la parole, mais puisque je ne la médite pas, ben après, ce sont les influenceurs sur les réseaux sociaux, ce sont les personnes qui parlent à la télévision ou à la radio, ce sont les journalistes que j'ai lus, ce sont les hommes politiques ou autres que j'ai écoutés, qui ont façonné ma manière de penser, conforme à la Bible ou non, ou finalement, la nature humaine au plus profond, c'est moi-même. C'est mon propre cœur qui dicte ce que je veux penser, ce que je veux faire, ce que je veux dire, et jamais je n'applique la parole de Dieu à ma vie. Pour ça que Jésus dit, il y en a plein qui vont dire, qui vont m'appeler Seigneur, Seigneur, mais qui n'ont jamais fait ce que je leur ai dit, parce qu'ils ont employé le mot Seigneur, parce que bon, bah, quelque part dans leur lecture, ils ont vu ce mot Seigneur, mais je n'ai jamais réellement été leur Seigneur. Puisque finalement, celui qui est notre Seigneur, c'est celui qui nous dit ce que nous avons à faire. Alors, soit ça va être effectivement le Seigneur, parce que nous avons médité sa parole, nous l'avons appliquée dans notre vie, soit ça va être quelqu'un d'autre qui est notre Seigneur, parce que finalement, c'est lui qui nous dit ce que nous allons croire, lire et faire, ou ça reste toujours moi-même, ma nature qui est mon Seigneur, parce que c'est moi-même qui décide ce que je vais croire, ce que je vais penser, ce que je vais dire et ce que je vais faire. Donc, le psalmiste tout de suite nous encourage à faire le bon choix dans ce défi devant nous, dans ce choix de qui nous allons écouter, qui va être notre Seigneur, en disant « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et finalement, on a besoin de toujours se rappeler de la définition biblique derrière ces mots, et se rappeler que donc, on n'a pas besoin d'être grand pécheur notoire pour être pécheur aux yeux de Dieu. Et donc, ça peut être quelqu'un tout à fait respectable, où on peut se considérer nous-mêmes tout à fait respectable, bien éduqué, bien intelligent, et se dire, bon, bah, sur telle question, je peux soit suivre son avis, soit faire mon avis, mais tant que ce n'est pas ce que dit le Seigneur, nous passons à côté donc de ce que lui veut pour nous. Et finalement, une des notions derrière le mot péché, c'est de rater le cible de Dieu, passer à côté de ce que Dieu veut. Donc finalement, c'est péché. Donc, le psalmiste nous met en garde et nous encourage à trouver notre plaisir dans la loi, dans la parole de l'Éternel. De laisser donc, de chercher le fondement de notre vie dans sa parole et être heureux de faire ce que Dieu nous dit dans sa parole. Donc, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 111, verset 10, nous souligne également que donc, si on veut savoir où trouver la vérité, si on doit choisir entre le conseil des méchants, les pécheurs, les moqueurs et la parole de l'Éternel, il dit, ben, la personne peut-être peut être très intelligente, mais c'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Le monde va forcément mettre, appuyer d'autres considérations que cela. Sur l'intelligence, sur les diplômes, sur le discours. Mais la Bible nous dit, nous, on doit rester sur le fondement que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et dans le psaume 14, verset 1, le psalmiste va jusqu'à dire, « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Peu importe le nombre de diplômes, peu importe la position de la personne, peu importe le nombre de followers sur les réseaux sociaux, la Bible nous dit « Quelqu'un qui dans son cœur dit « Il n'y a point de Dieu » est corrompu, commet des actions abominables, est insensé. » Et donc, est-ce que je vais écouter ce que Dieu veut me dire ou est-ce que je vais suivre ce qu'un insensé, aux yeux de Dieu, veut me dire. Le pécheur, le méchant, part aussi sur la base que la parole de Dieu est sans intérêt. Et que donc, il y a des conseils beaucoup plus intéressants à suivre parce que beaucoup plus profitables. C'est ce qui troublait justement le psalmiste dans le psaume 73. Quand il a dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. » Donc, à ceux qui disent « Il n'y a point de Dieu. » En voyant le bonheur des méchants. Il dit, d'un côté, je suis convaincu que Dieu est bon pour Israël et pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, je regardais autour, je voyais le bonheur des méchants. Et donc, je me trouvais en train de porter envie aux insensés. Parce que dans la suite du psaume, souvent, eux, ils sont tranquilles, ils n'ont jamais de problème. Tout a l'air de leur réussir. Alors que dans le psaume 1, c'est marqué dans le verset 3 que tout ce que fait celui qui suit le conseil du Seigneur lui réussit. Il dit donc, devant cette situation, j'ai failli me détourner du Seigneur, j'ai failli oublier ce qui était important, j'ai failli suivre les insensés, mes pas étaient sur le point de glisser en voyant le bonheur des méchants, jusqu'à ce que, dit le psalmiste, je commence à réfléchir à la lumière de l'éternité. Il dit, d'un point de vue immédiat, effectivement, Les insensés, les méchants, les pécheurs semblaient bien réussir dans la vie. Ils avaient trouvé le moyen de bien s'enrichir. Ils avaient trouvé le moyen de bien profiter de la vie. Tout semblait leur réussir. Jusqu'à ce que j'entre dans ton sanctuaire et je pense à la fin des choses. C'est pour cela que cette question « Qui façonne la personne que je suis ?» est importante, parce que Dieu nous dit que la réponse à cette question aura un impact énorme sur notre vie qui va nous poursuivre jusque dans l'éternité. Versets 4 jusqu'à 6, « Il n'en est pas ainsi des méchants. » C'est pour ça qu'il dit de ne pas marcher selon le conseil des méchants. « Ils sont comme la paille que le vent dissipe. » Dans un premier temps, s'il y a un tas de paille, bah, ça a l'air joli, on peut s'asseoir dessus, on peut faire ce qu'on veut, on peut construire un mur avec, et ça semble tout aussi solide qu'autre chose. Mais ils sont comme la paille que le vent dissipe. Une fois que le vent souffle dessus, c'est parti. Ces méchants, ces pécheurs, ces moqueurs, effectivement, dans un premier temps, peut sembler avoir tout compris, avoir toutes les réponses pour la vie. Trouver le moyen d'être heureux, trouver le moyen de bien profiter de la vie, trouver le moyen de bien s'enrichir. Mais il vient toujours ce dernier jour, nous dit le Seigneur. Verset 5, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. » Si on croit à ce que Dieu nous dit, il y a des considérations plus importantes que le profit immédiat, que de savoir si pendant les mois à venir, on va pouvoir s'enrichir un maximum et bien profiter de la vie. Il faut toujours tenir en compte le fait qu'il y aura le jour où Jésus va revenir, où il va demander des comptes à chacun, où on aura des comptes à lui rendre. Et il dit, les méchants ne résistent pas au jour du jugement. C'est ce que conclut également Asaph dans le psaume 73. C'est pour ça qu'il dit, mes pieds ont failli glisser en regardant le bonheur des méchants jusqu'à ce que je pense à leur fin et que je me rappelle ce dernier jour du jugement. Les méchants donc ne résistent pas au jour du jugement, donc ne marchez pas selon le conseil des méchants. Car les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Le jour où le Seigneur séparera ces brebis d'avec les boucs, les pécheurs ne résisteront pas dans l'assemblée des justes, se trouveront du mauvais côté de la sélection du Seigneur. Et donc, ne marchez pas selon le conseil des méchants, ne vous arrêtez pas sur la voie des pécheurs, ne vous assiez pas dans la compagnie des moqueurs. Car, verset 6, l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Combien même d'hommes politiques, d'hommes d'affaires semblent avoir une réussite fulgurante. Et même dans cette vie, souvent, vient un jour où finalement tout s'écroule. Et tout ce qui semblait leur réussir, finalement, vient à rien. Parce que si on les regarde pendant les jours du succès, effectivement, on a l'impression qu'ils ont tout compris et que c'est eux qu'on doit suivre, que c'est eux qu'on doit imiter, jusqu'au jour où, effectivement, il y a l'explosion et tout tombe à terre. Mais la Bible nous dit que même ceux qui ont l'air même d'aller jusqu'à la mort, dans le bonheur, dans la réussite, il y a toujours ce dernier jour qui nous attend tous, où tous nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Et donc à ce moment-là, est-ce que vraiment on voudrait avoir construit notre vie en imitation de leurs valeurs, de ce que eux ils ont fait? Le psalmiste nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon leur voie, qui ne les suivent pas, qui ne les laisse pas influencer sa vie, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Car, dit-il, il y a des bienfaits inestimables dans le fait de baser sa vie sur les avis du Seigneur. » Verset 3. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Surtout d'un point de vue éternel. Donc il fait le contraste avec celui donc qui écoute la parole par rapport aux méchants, aux pécheurs, aux moqueurs. Il dit, au lieu d'être comme la paille, qui sont là un jour et qui le lendemain sont enlevés par le vent, il dit, celui qui fonde sa vie sur la parole de Dieu est comme un arbre solidement planté. Alors, ces dernières semaines, il y a eu pas mal de tempêtes qui sont passées, et généralement, à chaque tempête, il y a des arbres qui tombent. Mais généralement, les arbres qui craignent le vent, qui craignent la tempête, sont souvent desséchés, soit par la maladie, soit parce que ils trouvent pas dans le sol ce qu'il leur faut pour être en bonne santé, ou parce que, comme on voit dans nos régions ces dernières années, il y a des nuisibles qui se sont installés dans ces arbres et qui les tuent depuis l'intérieur, et donc, à un moment donné, ils n'ont pas ce qu'il faut pour résister face à la tempête, ou tout simplement, le sol dans lequel ils se trouvent est incapable de les retenir. Mais le psalmiste nous dit que celui qui écoute le Seigneur, celui qui médite jour et nuit la parole du Seigneur et trouve son bonheur dans la parole du Seigneur, donc suffisamment pour la mettre en pratique, comme Jésus le souligne, eux, ils ont toutes les conditions nécessaires pour prospérer éternellement. Ils sont bien tenus, bien nourris, avec la sève qui coule jusqu'au bout des branches, leur permettant d'avoir cette vie qui donne la souplesse de pouvoir peut-être être courbé par la tempête, mais avec la possibilité de revenir une fois que le vent arrête de souffler. Ça rappelle les paroles de Jésus dans Jean chapitre 15, quand il a dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Parce que la branche a besoin de cette vie qui vient des racines et qui apporte la nourriture et la vie qu'il lui faut pour porter du fruit et aussi pour résister à la tempête. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. On portera beaucoup de fruits. On pourra demander ce qu'on voudrait et le Seigneur nous le donnera parce que justement, celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit, qui la met en application, est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Puisque finalement, l'Éternel connaît la voie des justes. Donc celui qui vit ainsi résistera, même au jour du jugement. La tempête la plus forte, la plus terrible de l'histoire. Et il résistera, il trouvera sa place dans l'assemblée des justes. Puisque le Seigneur donc va pouvoir l'accueillir auprès de lui. Ce qu'il fait réussit parce que finalement c'est le fruit de la vie du royaume de Dieu qui coule à travers sa vie, qui conduit sa vie. Et le psalmiste met cela en opposition au conseil des méchants qui mène non pas à l'assemblée des justes, non pas à la réussite, mais à la ruine. Et puis au-delà donc de ces bienfaits-là, il y a donc un bienfait ultime au-dessus de tous les autres dans le fait de trouver son bonheur dans la parole de l'Éternel, de la méditer jour et nuit. Plus que tout le reste que le Seigneur peut nous donner, c'est aussi le moyen de connaître Dieu. Dans Jean 5, à partir du verset 37, Jésus disait: le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, au-delà du bienfait d'être accepté, de recevoir la vie éternelle, nous avons donc ce bien ultime en lisant les Écritures, en les méditant jour et nuit. Les Écritures nous conduisent au Seigneur lui-même. Donc Jésus qui dit, vous lisez ces Écritures parce que vous pensez que ces Écritures vont vous donner la vie, effectivement, ce serait le cas si vous veniez à moi à travers elles. Si nous méditons jour et nuit la parole de Dieu, c'est le Seigneur lui-même que nous allons connaître. C'est le but ultime d'ailleurs de notre lecture biblique. Et Paul le souligne également, ou au moins le comprenait ainsi, si on regarde ce qu'il a écrit dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 à 19. Il écrivait à l'Église: « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. » Mais verset 19, « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » Le but ultime de notre lecture et de notre méditation de la parole de Dieu est bien plus que simplement des connaissances intellectuelles sur le royaume de Dieu, puisque ben, finalement, si notre lecture, notre méditation s'arrête là, ben, on se trouve dans la position des scribes et des pharisiens qui, eux, étaient des experts en connaissance des textes de la parole de Dieu. Mais il dit, ma prière pour vous, c'est que vous puissiez, en lisant, en méditant, comprendre, mais aussi connaître l'amour de Dieu. Le Seigneur désire qu'on trouve notre bonheur dans sa parole, qu'on se laisse façonner par sa parole, non seulement parce que c'est le moyen d'être béni, le moyen sur le plan éternel de recevoir la vie, mais également parce que c'est le moyen de le connaître, d'entrer en relation avec lui, d'écouter sa voix et de faire l'expérience de son amour dans notre vie. Ce n'est pas donc juste pour qu'on ait des connaissances sur le royaume ou pour qu'on ait une moralité même biblique. Ça, c'est un bienfait secondaire, mais il dit le bienfait ultime, c'est de nous conduire jusqu'à lui. C'est l'objectif de le connaître, lui. De connaître le Dieu qui est l'auteur de cette parole, le Dieu qui parle à son peuple par cette parole, qui se révèle et qui s'est révélé par les prophètes et par les apôtres. Il nous invite à le découvrir dans sa parole, pour qu'on puisse le connaître comme réalité dans notre vie. Il nous montre qui il nous montre comment il est, pour que dans notre vie, nous puissions faire l'expérience de lui, nous puissions le chercher et nous puissions le reconnaître lorsque nous le rencontrons. Pour que nous puissions savoir comment s'approcher de Dieu. Jésus a dit, nul ne vient au Père que par moi. Mais pour le connaître, lui, on a besoin de savoir qui il est. Et donc, il s'est révélé à ses apôtres. Pour cela que, après la mort de Judas, les disciples se sont dit, il va falloir le remplacer parce qu'il faut ces 12 témoins qui ont vécu à côté de Jésus, qui ont reçu la vie par lui, qui ont reçu son enseignement, pour que nous puissions après le présenter aux générations à venir, pour que nous puissions laisser la trace de son enseignement, de sa parole, de sa personne, pour que par la suite, ces personnes aussi puissent le connaître. Il désire qu'on puisse le connaître dans notre expérience. Donc il dit, méditez ma parole, ainsi vous reconnaîtrez ma voix. C'est sur le fondement de ce qu'il a révélé dans sa parole que nous pouvons effectivement reconnaître sa voix parmi toutes les autres voix. Puisqu'il nous montre comment il est, il nous montre justement les valeurs qui vont nous permettre de trier nos pensées, de trier les voix qu'on écoute, pour que ce ne soit ni notre propre cœur, nos propres avis, notre propre nature, ni la voix des méchants, pécheurs, moqueurs qu'on suit, mais pour qu'on reconnaisse sa voix à lui, car conforme à tout ce qu'il a révélé à travers les prophètes et les apôtres. C'est pour cela que nous avons besoin de méditer sa révélation, pour le connaître tel qu'il est, pour connaître le Seigneur, pour pouvoir fonder notre vie sur ce fondement de sa personne et pour qu'on puisse vraiment venir à lui pour l'adorer. Nous avons la révélation de la création, mais la Bible nous dit qu'en tant qu'être humain pécheur, dans un monde déchu avec une création déformée par l'effet du péché et de la chute, la création ne suffit pas maintenant pour que nous puissions connaître parfaitement le Seigneur. La Bible nous dit que ça devrait déjà nous montrer que Dieu existe, mais ça ne suffira pas, vu notre nature, pour le trouver. L'intellect humain ne suffira pas pour trouver Dieu. Ça ne sert à rien que nous en cherchions en nous-mêmes ou chez d'autres personnes les réponses. Parce que dans Ésaïe 55, Dieu nous dit qu'il est bien au-delà des pensées humaines. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ce n'est pas la peine que je cherche les réponses en moi-même, ou que je cherche Dieu en moi-même. J'ai besoin de cette révélation qui me révèle les pensées, les voies de Dieu lui-même, par lesquelles lui s'est révélé à moi. Donc, pour cette année à venir, le psalmiste nous encourage à trouver notre plaisir, notre joie dans la parole de l'Éternel, dans la parole de Dieu, sachant qu'elle nous permettra, d'une part, de découvrir le chemin qui conduit jusque dans la vie éternelle, qui nous permettra donc de résister au jour du jugement, de faire partie de l'assemblée des saints, mais surtout qui nous permettra de connaître le chemin qui conduit dans la vie éternelle, car elle nous permettra de connaître Dieu lui-même. Et c'est lui qui nous conduit jusque dans la vie éternelle. C'est lui que nous sommes appelés à connaître et à adorer. Donc cette année, mettons notre plaisir dans la parole de Dieu, méditons-la jour et nuit pour que notre Seigneur puisse se révéler à nous.